Vous écoutez RTL.
Et on rejoint Marc-Olivier Fogiel pour RTL Soir.
Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2 heures d'infos. Et à la une, Édouard Philippe met de l'eau dans son vin sur la SNCF au 10e jour de grève contre la réforme ferroviaire et au moment où l'intersyndicale se réunit pour décider de la suite de la contestation. Le Premier ministre écrit au syndicat, il leur annonce qu'il les recevra en personne le 7 mai prochain à Matignon. Changement de pied donc, jusque-là il refusait de le faire et a laissé sa ministre Elisabeth Borne en première ligne. Édouard Philippe confirme également la reprise de la dette de la SNCF à partir du 1er janvier 2020. Cela demandera un effort supplémentaire des contribuables, précise-t-il. De RTL Soir, on va vous expliquer cette nouvelle stratégie. On verra comment elle a été reçue par les cheminots. Et puis on vous emmènera en coulisses tout à l'heure, coulisses des tractations secrètes. RTL Soir, première édition, avec vous Céline Landreau. Bonsoir Céline.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Les autres titres du journal de 18h.
Derrière le faste de l'accueil et le glamour, la diplomatie reprend ses droits aux États-Unis. Passe d'armes ce soir dans le bureau ovale. Emmanuel Macron et Donald Trump affichent leur désaccord sur le climat et le nucléaire iranien.
Et invitée de ce journal, Christine Lagarde, la patronne du FMI. Elle sera ce soir à la Maison-Blanche pour le fameux dîner d'État.
Vincent Bolloré, un grand patron en garde à vue depuis ce matin. L'industriel breton est soupçonné d'avoir intrigué politiquement pour obtenir la gestion de plusieurs ports africains. 1 million d'euros pour Carlos Tavares, prime exceptionnelle pour le patron de PSA qui a racheté Opel. Un cadeau qui passe mal aux yeux des syndicats. C'était une légende du FC Nantes et du foot français. Henri Michel est décédé aujourd'hui. L'ancien capitaine puis sélectionneur des Bleus avait 70 ans.
Et à 18h20, invité de RTL Soir, une légende. Michel Platini, l'ancien numéro 10 des Bleus, qui lui rendra hommage.
Et puis direction le printemps de Bourges à la fin de ce journal. Le printemps qui lance la saison des festivals en célébrant la femme. La Bourse de Paris termine en petite hausse ce soir, plus 0,10%. Le CAC 40 s'établit à 5 444 points. Les courses à Paris-Longchamp, il fallait jouer le 9, le 10, le 12, le 2 et le 5.
Et à la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité, virée par un simple texto. On vous racontait ce matin comment un patron voyou avait mis à la porte 430 salariés. Par SMS, mais est-ce que c'est légal ou pas? 18h30, Olivier Mazerolle. Ce soir, donc, Macron-Trump, duo, duel surtout. 18h35, tel père, telle fille. 20 ans après la mort d'Éric Tabarly, Marie, sa fille, largue les amarres à bord du mythique Pendwick 6 pour un tour du monde avec escale. On part à l'aventure pour la bonne cause tout à l'heure sur RTL. 19h15, on refera le monde. Bonsoir Patricia Charbonnier.
Bonsoir.
Et demain, le temps sera plus nuageux avec quelques averses.
Oui, au passage d'une perturbation qui va circuler des côtes de la Manche vers le centre du pays et vers le sud-ouest. Elle sera très atténuée, surtout beaucoup de nuages, quelques pluies mais très faibles et très localisées. Et même dans l'après-midi, on retrouvera de belles éclaircies dans le nord-ouest, sur l'île de France et sur le Hauts-de-France. Le temps restera encore très ensoleillé dans le sud-est avec des températures en baisse dans le nord et l'ouest. 14 degrés demain après-midi à Cherbourg, 16 à Lille, 18 à Paris et Tours, mais des températures encore très élevées dans l'est et le sud, jusqu'à 27 degrés demain après-midi à Grenoble et à Nîmes.
À tout à l'heure Patricia.
RTL Soir.
Et au 10e jour de grève des cheminots, le gouvernement lâche donc du lest. Édouard Philippe recevra finalement les syndicats.
Des syndicats réunis actuellement à Paris et qui réagiront certainement ce soir à cette concession gouvernementale. Le Premier ministre leur avait pourtant opposé une fin de non-recevoir la semaine dernière, rappelant qu'il n'y avait qu'un interlocuteur, la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Changement de cap, donc, cet après-midi, Benjamin Sportouche. Matignon propose désormais aux syndicats des réunions bilatérales le 7 mai prochain.
Oui, c'est le sens de la lettre que le Premier ministre a adressée cet après-midi à l'intersyndicale, dans ce qui ressemble furieusement à une concession et pour cause. La semaine dernière, il quittait la table de la concertation et réclamait de rencontrer directement Édouard Philippe, voilà chose faite. Sauf que le sujet, Matignon l'assure, ce ne sera pas la réforme de la SNCF votée la semaine dernière à l'Assemblée. Pas question de revenir dessus, le statut de cheminot est bel et bien enterré. Mais Édouard Philippe leur tend la main sur un autre sujet qui ne figure pas dans le projet de loi, la dette de la compagnie. Le chef du gouvernement confirme que l'État la reprendra progressivement, comme l'avait annoncé Emmanuel Macron, mais en contrepartie, il réclame encore et toujours des engagements de productivité de la SNCF pour, je cite, assurer la pérennité de l'entreprise. Un donnant-donnant et pas un chèque en blanc, assure ce soir Matignon. Mais l'entourage du Premier ministre le reconnaît cependant ce soir. Cette lettre est une façon de sortir de l'impasse, d'éviter le pourrissement, alors que les syndicats menacent clairement de poursuivre la grève cet été.
Reste à savoir qui va payer cette dette, Benjamin.
Oui, une dette évaluée à 54 milliards d'euros. Édouard Philippe explique que cela demandera, je cite, un effort supplémentaire des contribuables, ce qu'on est tenté de traduire par taxe sur les billets de train ou impôts supplémentaires. Mais Matignon dément ce soir ces hypothèses. L'État piochera dans sa caisse sans demander davantage aux Français. Promesse d'Emmanuel Macron oblige. Reste à connaître, à savoir quelle sera la réponse des syndicats très remontés jusque-là, y compris les plus réformateurs comme la CFDT.
Benjamin Sportouche du service politique de RTL.
L'exécutif qui se penchera demain aussi sur le dossier de Notre-Dame-des-Landes. Une réunion aura lieu dans l'après-midi à Matignon pour faire le point. Aujourd'hui, une convention d'occupation précaire a été signée avec quatre agriculteurs historiques de la ZAD qui avaient refusé les expropriations et les indemnisations.
Le glamour laisse place à la passe d'armes diplomatique aux États-Unis. Emmanuel Macron et Donald Trump qui affichent désormais leur désaccord.
Le couple présidentiel français était accueilli avec faste cet après-midi. Tapis rouge, revue des troupes, 21 coups de canon tirés dans le ciel de Washington. Les honneurs donc pour Emmanuel Macron qui s'entretient actuellement dans le bureau ovale avec Donald Trump. Mais tout le protocole déployé ne dissipe pas les désaccords profonds entre les deux chefs d'État. L'un et l'autre ont d'ailleurs donné le ton avant même leur discussion en privé, Philippe Corbet.
Oui, ce n'est clairement pas le même ton sur l'Iran. Emmanuel Macron semble donner une leçon d'histoire au président Trump, une leçon de multilatéralisme, une leçon de négociation même, comme s'il lui disait « Comment voulez-vous discuter avec la Corée du Nord si vous sortez de l'accord avec l'Iran ?»
C'est ensemble que nous endiguerons la prolifération des armes de destruction massive, que ce soit en Corée du Nord ou en Iran. L'histoire nous appelle. La France et les États-Unis ont rendez-vous avec leur destin. Nous n'avons qu'un devoir, Monsieur le Président, cher ami, être à ce rendez-vous.
Ton un peu grandiloquent, très macronien. Quelques minutes plus tard, dans le bureau ovale, l'Américain lui répond sur un ton très trumpesque.
L'accord iranien est un désastre. C'est un accord terrible qu'il n'aurait jamais fallu faire. C'est insensé, ridicule, il n'aurait jamais dû être fait. Prenez note, s'ils recommencent leur programme nucléaire, ils auront davantage de problèmes qu'ils n'en ont jamais eu.
Le président français à ses côtés semblait soucieux, surpris par ce ton guerrier. C'est la première fois que l'Américain menace ainsi l'Iran en cas de reprise de son programme nucléaire. L'Élysée essaye de tempérer, c'est l'expression de position forte. Nous savions que le sujet était sensible. Emmanuel Macron, en ce moment, essaie de convaincre Donald Trump que les positions françaises et européennes ne sont pas incompatibles avec des préoccupations américaines.
Philippe Corbet, le correspondant de RTL aux États-Unis.
Invité du journal de 18h, la directrice du FMI. Bonsoir Christine Lagarde.
Bonsoir Marc-Olivier Fogiel.
Vous allez donc participer au dîner d'État donné par Donald Trump à la Maison Blanche sur l'honneur d'Emmanuel Macron. Tout d'abord, on l'a vu avec cette sortie musclée du président Trump sur l'Iran. Derrière le glamour, il y a de véritables enjeux politiques et économiques ce soir.
D'abord, je crois que c'est un peu un moment symbolique d'une amitié entre deux pays. Deuxièmement, c'est la première visite d'État qui est organisée sous la présidence de Donald Trump, et c'est la France qui est choisie. Donc il y a vraiment une dimension émotionnelle, historique. Mmh. En plus, il y a tous les enjeux, bien entendu, de nature politique, économique, militaire, et on pense à l'Iran, à la Corée du Nord, aux questions relatives au commerce international, etc., etc.
Christine Lagarde, il y a une complicité, mais il y a surtout des divergences. Donald Trump s'est montré inflexible sur le nucléaire iranien. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut vraiment faire infléchir le président américain? C'est vraiment la question qu'on se pose ici.
D'abord, ce matin, quand il s'est exprimé sur la pelouse de la Maison-Blanche dans un cérémonial très étudié, le président n'a pas manqué de parler spécifiquement des questions qui sont difficile, c'est-à-dire le climat, c'est-à-dire la prolifération des armes nucléaires, c'est-à-dire les accords commerciaux. Et il l'a dit, ce sont des sujets que nous devons partager, sur lesquels nous ne sommes pas forcément d'accord, mais où il faut avancer. Je pense que ça, c'est la vraie vertu de ce voyage, c'est de continuer en permanence un dialogue, parce que les décisions de l'administration américaine sont bien souvent imprévisibles, mais il faut absolument garder le contact et convaincre et sans arrêt remonter remonter au combat argumentaire.
Donc, Christine Lagarde, le pari de faire ami-ami avec Donald Trump, ça reste le bon, malgré un président américain très offensif, comme on l'a vu ce soir.
Le président Trump a été élu par les États-Unis. Les États-Unis sont la première puissance économique militaire au monde. Il faut évidemment travailler avec la personne qui est le président élu par les Américains.
On entend bien ça. On entend bien donc que les discussions que vont avoir les deux présidents sont importantes, les conseillers aussi. Quel regard portent les décideurs américains sur Emmanuel Macron, Christine Lagarde?
D'abord, je pense qu'ils le trouvent sympathique, élégant, ferme, représentant la France de manière remarquable. Il est tout à fait respecté et admiré par beaucoup d'Américains.
Et pour conclure, vous, en tant que patronne du FMI, selon vous, quel est le sujet le plus important d'un point de vue économique que Emmanuel Macron doit traiter avec Donald Trump ?
Le sujet fondamental toujours, c'est celui du maintien de la paix, parce que les risques géopolitiques, s'ils devaient se réaliser, seraient catastrophiques à tout point de vue. Le deuxième, c'est évidemment éviter toute forme de guerre, et notamment de guerre commerciale par des moyens protectionnistes qui ne sont pas les plus efficaces.
Merci beaucoup Christine Lagarde, je vous laisse rejoindre donc la Maison Blanche et ce dîner d'État. Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Au Canada, le chauffeur qui a foncé dans la foule hier à Toronto a été formellement inculpé aujourd'hui pour 10 meurtres avec préméditation et 13 tentatives de meurtre pour autant de blessés graves. Les motivations de l'assaillant restent inconnues. La piste terroriste n'est pour l'instant pas retenue.
L'actualité de ce mardi, c'est également Vincent Bolloré en garde à vue depuis ce matin. Le grand patron est soupçonné de corruption.
Les enquêteurs s'interrogent sur la manière dont le groupe Bolloré, propriétaire de Canal+, de l'agence de pub Havas ou encore des Autolib, a obtenu la gestion de plusieurs grands ports africains. Le directeur général du groupe et le responsable du pôle international de Havas sont également entendus depuis ce matin par les policiers à Nanterre. Bonsoir Guillaume Chiez.
Bonsoir.
Ils soupçonnent en fait Bolloré d'avoir favorisé l'élection de deux présidents africains.
Oui, deux élections, celle d'Alpha Condé en 2010 en Guinée-Conakry et celle de Faure Gnassingbé au Togo la même année. Le groupe Bolloré aurait mis à leur disposition les services de Havas, sa filiale en communication, et des prestations sous-facturées aux futurs dirigeants. C'est en tout cas ce qui ressortirait de la perquisition menée au siège du groupe Bolloré en avril 2016. En contrepartie de ces précieux conseils bradés par Havas, la justice soupçonne Vincent Bolloré d'avoir obtenu deux marchés publics, l'exploitation des terminaux portuaires de Lomé au Togo et de Conakry en Guinée. Et des accusations que le groupe Bolloré a immédiatement réfutées ce matin après l'annonce des gardes à vue de ses différents dirigeants. Et c'est l'expertise du groupe et ses capacités financières qui lui ont permis de se voir attribuer ses concessions portuaires, détaille un communiqué. Les gardes à vue de Vincent Bolloré et de ses différents collaborateurs soupçonnés de corruption d'agents publics étrangers peuvent être prolongés jusqu'à jeudi matin.
Explication de Guillaume Chiez du service police-justice de RTL.
Et conséquence de ces gardes à vue, les actions du groupe Bolloré plongent en bourse moins 6% ce soir.
Deux mois après sa relaxe, Jawad Ben Daoud a nouveau affaire avec la justice.
Le logeur des djihadistes du 13 novembre est en garde à vue pour des menaces de mort sur son ex-compagne, des menaces par texto et par téléphone. Le jeune homme, star des réseaux sociaux, lourd passé judiciaire, avait pourtant assuré après sa relaxe qu'il se tiendrait à carreau. Il l'avait même promis à votre micro le 7 mars dernier, Marc-Olivier Fogiel.
Marc, vous n'entendrez pas de votre vie que Jawad a été interpellé parce qu'il a commis un acte illégal de, peut-être pour une ceinture de sécurité, peut-être pour, je ne sais pas, un délit routier, peut-être, je ne sais pas, mais pas pour de la délinquance en tout cas.
Si, pour de la délinquance, donc, puisqu'il en garde à vue maintenant pour menace de mort sur son ex-campagne, Jawad Ben Daoud, qui était avec nous le 7 mars dernier sur RTL. On marque une pause.
RTL soir 18h12.
Et dans un instant, hommage à une légende du football tricolore, Henri Michel, décédé aujourd'hui, il avait 70 ans.
Il est 18h14, RTL soir avec Marc-Olivier Fogiel et la suite du journal de Céline Landreau.
Et un monument du football français s'est éteint aujourd'hui. Henri Michel, ancien joueur, sélectionneur également de l'équipe de France, est décédé. Il avait 70 ans.
Et depuis la mi-journée, les hommages se multiplient de la part de ses anciens partenaires, des joueurs qu'il a dirigés. Ils évoquent un meneur d'hommes d'une fidélité et d'une loyauté rare. Et l'émotion est particulièrement vive à Nantes, où le club salue une légende, la légende, Christian Olivier.
Parfaite belle gueule des années 70. Cheveux mi-longs, franges légères sur le côté, prototype de la figurine Panini pour ce romantique du ballon rond à la fidélité qu'il érige en vertu cardinale. Un club, un seul, avec ce maillot jaune et vert, floqué du numéro 8, 532 matchs, 3 titres de champion, une Coupe de France gagnée sous les yeux de Valéry Giscard d'Estaing et ce fameux jeu à la nantaise des années 70.
Je crois que ce titre est amplement mérité par la qualité de ce qu'ont fait tous les garçons. Et je dois les remercier tous, c'est vrai qu'ils m'ont facilité la tâche.
Henri Michel, leader, chef de bande, père, copain, bon vivant, selon les affinités avec ses partenaires nantais ou de l'équipe de France, mais toujours la gentillesse et la modestie quand il devient le sélectionneur des champions olympiques 84.
Je me suis forcé de dire aux gars qu'à partir de ce moment-là, c'était la volonté qui comptait, c'est ceux qui désiraient le plus, qui l'emportaient en général, et je crois que c'est ce qui s'est passé.
68 sélections et un soir de mars 76 contre la Tchécoslovaquie, capitaine des Bleus, il s'avance pour tirer un coup franc avant qu'un certain Platini, pour sa grande première, s'approche et lui demande avec culot de lui laisser le ballon et pour marquer le but, une transmission sur le terrain avant d'être l'adjoint de Michel Hidalgo, champion d'Europe 84, puis sélectionneur en chef, demi-finaliste de la Coupe du Monde 86 et les fameux France-Brésil et France-Allemagne de Guadalajara.
Et je suis là un petit peu pour voir comment ça se passe, pour apprendre. Et ensuite, j'ai participé aussi à l'élaboration de l'équipe. Pour moi, c'est un rôle nouveau qui me plaît énormément et auquel j'adhère complètement.
En 88, il est débarqué brutalement de son poste de sélectionneur. Henri Michel n'allait pas bien ces derniers mois. Il désirait revenir et mourir en France, à Aix-en-Provence, sa ville natale.
Christian Olivier, chef du service des sports de RTL. Et maintenant, dans quelques minutes, donc, invité d'RTL Soir, grâce à vous, Christian Olivier, Michel Platini, donc son partenaire sous le maillot bleu.
Et puis le foot, c'est aussi la Ligue des Champions. Ce soir, première demi-finale aller entre Liverpool et l'AS Rome, coup d'envoi à 20h45.
1 million d'euros pour Carlos Tavares, le patron de PSA, est félicité par ses actionnaires pour le rachat d'Opel.
Une prime exceptionnelle votée aujourd'hui en Assemblée Générale et qui fait hurler les syndicats, car le rachat d'Opel se traduit aussi par plus de 3000 suppressions de postes. Avec cette prime, Carlos Tavares touchera donc 6 700 000 euros cette année, selon la CGT. Somme décriée donc par les syndicats, mais pas par les actionnaires. Christophe Bourreau, il faut dire que les résultats du groupe sont assez exceptionnels.
Oui, après une année 2017 record, Carlos Tavares a présenté aujourd'hui des résultats tout aussi exceptionnels. Depuis le début de l'année, le chiffre d'affaires est de 18 milliards d'euros, soit un bond de 42%, grâce notamment à la grande forme de ses SUV, comme le Peugeot 3008, et cela dans toutes les régions du monde, avec en prime Opel, qui fait mécaniquement augmenter les ventes du groupe. Et c'est dans ce contexte que Carlos Tavares a reçu un grand oui de la part des actionnaires. 76% ont voté pour une prime d'un million d'euros.
J'ai voté pour. Je pense que des gens comme ça, ils méritent de gagner. Bon, ça fait beaucoup d'argent. C'est pas le seul, hein. Carlos Ghosn, je crois que c'est encore mieux chez lui, hein. Il faut des gens comme ça pour mener des entreprises de cette importance. Et puis la France en a besoin, de grands chefs d'entreprise.
Au total, sa rémunération va donc passer à 6,7 millions d'euros par an, soit un salaire de plus de 18 000 euros par jour, dénonce la CGT, alors qu'un plan de départ volontaire a été mis en place pour Opel, même si la direction rappelle qu'avant l'arrivée de Carlos Tavares, l'entreprise perdait jusqu'à 250 millions d'euros par mois.
Christophe Bourreau, le spécialiste auto de RTL. Et puis la saison des festivals s'ouvre ce soir avec le fameux Printemps de Bourges, un printemps à la tonalité paritaire cette année.
La 42e édition débute avec une soirée 100% féminine tout à l'heure. Véronique Sanson, Juliette Armanet ou encore Catherine Ringe et ceux qui succéderont sur scène pour donner le la d'un printemps qui a joué la carte de la parité, Steven Bellery.
Oui, d'ici à dimanche, 71 artistes féminines ou groupes mixtes se produiront sur les différentes scènes du festival Berruyer contre 68 artistes exclusivement masculins. Une parité quasi parfaite, une volonté artistique, engagée, quasi politique du Printemps de Bourges. L'envie de programmer autant de femmes que d'hommes est née, non pas après l'affaire Weinstein, mais après le décès de Simone Veil en juin 2017. Boris Vedel, directeur du Printemps de Bourges.
Mais pourquoi ne pas le faire ? On ne peut pas imaginer un monde qui soit inégal. Et effectivement, on a mis du temps à vaincre des mauvais réflexes, des habitudes prises. Il y a certainement un peu de discrimination positive. C'est un outil qui fait débat. Et moi, je pose souvent la question, quel autre outil ? Mais ça n'a pas été simple. Il y a à peine 20% des femmes qui sont dans le top 100 albums. Maintenant, ce qui est important, c'est de changer les habitudes, de changer le regard, puis de donner des vocations.
Un parti pris salué dans les coulisses du festival, à l'image de la révélation Juliette Armanet.
Il était temps quand même que ça arrive. Ça fait du bien à tout le monde et aux femmes autant qu'aux hommes, j'en suis persuadée. J'espère que cette nouvelle ère n'est pas une ère de guerre. Par contre, ça doit être un combat qu'on mène, hommes et femmes, main dans la main, pour l'égalité. Voilà.
Autre génération, même enthousiasme, Catherine Ringer.
Oui, c'est positif. On est dans un mouvement de prise de conscience et d'évolution. Et nous, les femmes aussi, il faut qu'on évolue aussi et qu'on ait les bons positionnements par rapport à le maquillage, le fait de montrer nos formes, parce qu'on aime bien ça aussi quand même.
Cette programmation séduit en tout cas le public. Le printemps devrait accueillir plus de 70 000 spectateurs payants, un record.
Steven Bellery, donc en direct du Printemps de Bourges. Pour RTL, à tout à l'heure, Céline, vous revenez à 18h30.
À tout à l'heure.
Les clés pour bien comprendre l'actualité. Veuillez cesser toute activité à partir de 19h ce soir. La société est en liquidation judiciaire, signée la direction. Les 430 salariés d'une entreprise de sécurité se plaignent d'avoir été virés par un SMS que je viens de vous lire, lapidaire, hein. Mais licencié par texto, c'est légal ou pas, Anaïs Bouissou ?
Non, pour licencier un salarié, il faut d'abord le convoquer à un entretien préalable au licenciement, soit par courrier recommandé avec accusé de réception, soit en main propre, contre signature, soit par huissier, avec un impératif, pouvoir prouver que le salarié a bien lu votre courrier. Donc si vous envoyez un texto, la lecture du SMS est un peu compliquée à prouver. Le salarié est donc convoqué à un entretien, on lui explique au cours de cet entretien pourquoi il est viré, et ce n'est qu'après que l'employeur envoie un courrier signifiant « par écrit le licenciement.
Et comme dans ce cas donc, de licenciement abusif, est-ce que les salariés peuvent être réintégrés ?
Rarement en fait. Seuls quelques types de salariés peuvent demander à travailler à nouveau dans leur entreprise. Les salariés dits protégés, des femmes enceintes, des représentants du personnel ou encore des victimes de harcèlement moral. Mais même ces salariés protégés préfèrent souvent ne pas revenir. À la place, ils ont droit à des indemnités fixées au cas par cas en fonction notamment de l'ancienneté de l'employé et du préjudice subi.
Merci Anaïs Bouisson.
RTL Soir, 18h21.
Et dans un instant, l'hommage de Michel Platini à Henri Michel. Chez les Bleus, ils ont joué ensemble. Il était sous ses ordres, puis lui a succédé l'éternel numéro 10 de l'équipe de France, invité de la première radio de France dans un instant.